Chapitre 2 L'as de la chirurgie. Elle dut s'arrêter brusquement pour ne pas heurter l'homme qui portait l'arrière du brancard. L'apparition avait maintenu sa distance. Elle avait reculé, selon l'avance même de Rosine, à travers l'homme, à travers la civière, et elle se tenait plus loin, un spectre obscur dont les contours étaient liserés d'un mince flamboiement. Un spectre, un vrai spectre, dans la vraie vie. Malgré son désespoir d'épouse amoureuse, Rosine fut saisie du regret de ne pouvoir se rendre à la salle des morts pour s'enquérir du voyageur inconnu et savoir quel était cet étrange cadavre qui pouvait se dédoubler en blanc et en noir. Cette jeune femme avait lu bien des romans et vu se dérouler bien des films. L'éducation du feuilleton et du cinéma l'avait blasée sur mille et un points. Le récit et le spectacle d'événements impossibles l'avaient préparée à ne pas s'étonner du phénomène le plus invraisemblable. Tout de même, sa frayeur n'allait pas sans stupéfaction, et la voix du médecin la tira d'une sorte de torpeur voisine de l'évanouissement. Le spectre s'était dissipé. Elle ignorait comment. On était devant la gare, parmi des voitures. « Où est l'auto ?» demandait le médecin. « La voici. » Le plafonnier de la limousine donna sa clarté crue. On improvisa tant bien que mal une couchette et Stéphane y fut étendu. Le médecin, soucieux, tira sa trousse et fit une piqûre hypodermique à l'avant-bras du patient. Ce que voyant, Rosine lui dit « Docteur, voulez-vous me rendre un service dont je vous serai reconnaissante toute ma vie ? Accompagnez-nous à Paris. J'ai tellement peur du voyage. Mon pauvre mari me semble si bas, si bas. » Pour peu qu'il ait une syncope en route. Oui, cela vaudra mieux en effet. Partons. À Paris, Félix. Les arbres squelettiques défilaient déjà. D'ailleurs, continua le médecin, j'habite Paris et je n'ai plus rien à faire à Montgeron cette nuit. Assis sur un strapontin, il surveillait son malade. Rosine, dans le fond de la voiture, reposait sa fatigue au moelleux capiton. Elle n'en pouvait plus. Sa belle tête abandonnée se renversait. « Où allons-nous ? » dit le major au bout d'un instant. « Mais chez moi, Huguenemère ? Ah non, cela n'est pas possible. Il faut conduire votre mari dans une clinique, chez un praticien de premier ordre. » « Avez-vous une préférence ?»« Une préférence ?» À cette époque, un nom dominait la chirurgie comme celui de Foch avait dominé la guerre. Le docteur Serral était l'as de la chirurgie. Sa célébrité s'étendait sur tout le globe. Chacun connaissait la vie de ce Français génial, révélé à l'admiration du monde par sa lutte triomphale contre les plus affreux ravages des engins meurtriers, et depuis lors, continuellement, rue Galilée, dans sa clinique, les merveilleuses prouesses qui lui valaient chaque jour plus d'honneur et plus de reconnaissance. Si elle l'avait pu, Rosine eût mobilisé Dieu lui-même pour soigner Stéphane. À défaut de cette illustration, elle choisit Serral, qui était plus à sa portée et représentait sur terre ce qui se faisait le mieux dans le genre exigé. Soit, fit le médecin avec une grimace ambiguë, un génie comme Serral ne sera pas de trop. Il avait dit cela sur un ton si amer que Rosine s'inquiéta. Est-ce que vous n'avez pas confiance en lui, docteur ? L'autre leva les épaules. « Oh, je ne voudrais pas vous ôter vos illusions, madame. Je considère Serral comme un prestidigitateur du bistouri. Mais il y a dans son cas un côté qui me déplaît. Cette renommée, bon, c'est pas correct, ça. Et puis, il branlait du chef d'un air entendu. Et puis quoi? Ben, je voudrais pas vous décourager, mais enfin, ces tours de force, ces opérations de passe-passe, c'est très bien, mais j'ai entendu parler d'expérience, d'audace. Hélas, la jalousie aurait voulu s'incarner qu'elle n'aurait pas choisi d'autre visage que celui de ce triste médecin-major, renfrogné d'un succès et jaune d'envie. Rosine s'en aperçut, mais n'en demanda pas moins. Mais quelles expériences, quelles audaces! Oh, ce n'est pas le moment de voir le mauvais côté des choses, répliqua le maudit major. L'avenir dira si la chirurgie de Serval est une étape du progrès ou une impasse sans issue. Mais voyons, est-ce que le professeur Serval n'a pas obtenu des résultats inespérés? Ne s'est-il pas fait une spécialité des opérations à la tête? Si, madame, et je reconnais qu'à ce point de vue, vous pouviez choisir plus mal. Car évidemment, à moins de lésions internes, que je n'ai pas pu diagnostiquer, c'est surtout la fracture de l'occipital qui met en danger la vie de monsieur Orlac. Rosine se serrait le cœur à deux mains. Elle étouffait et regardait Stéphane comme si elle eût regardé son tombeau. Dire que cela, cette victime ensanglantée, c'était son bien-aimé, son tout, son grand homme, son petit homme. L'aspect du blessé était horrible. Le médecin tourna le commutateur du plafonnier. Ne regardez pas, madame, reposez-vous. Vous aurez besoin de tout votre potentiel nerveux ces jours-ci. Ne craignez rien, je tiens le poignet de monsieur Orlac. Si le pouls faiblissait, j'agirai sur le champ. Au ronron de l'automobile, Rosine réfléchissait. Elle hésitait maintenant à conduire Stéphane chez Serral. Mais la grande voix de la renommée couvrit bientôt les objections vagues et tendancieuses du médecin-major. Et quand la voiture pénétra dans Paris, elle dit à Félix « Rue Galilée ». On y fut rapidement, les voies à cette heure-là étant libres. La clinique Blanc-Palais s'illumina. Dès qu'on eut placé Stephen sur une table roulante, le médecin-major prit congé de Rosine en lui laissant sa carte et des paroles d'espérance qui le firent quelque peu remonter dans l'estime de la jeune femme. L'interne de nuit, vêtu d'une blouse immaculée, lui dit « On vient de téléphoner au professeur Serral, le maître sera là dans un instant. » Cette phrase fut pour Rosine un baume d'une douceur infinie. Elle avait tant redouté que ce prince de la science ne fût absent ou qu'il ne consentît à voir Stéphane que le lendemain. Il était là, il allait venir, lui. Comme elle l'aimait de se trouver à Paris et d'être si secourable en étant si savant. Une infirmière introduisit Rosine dans un hall élégant et simple qui, à force de blancheur, semblait taillé au sein d'une banquise. L'infirmière, non moins arctique, expliqua que Stéphane avait été placé dans une salle d'examen et s'enquit des besoins de madame d'Orlac. Là-dessus, on entendit le bourdonnement étouffé d'un moteur. Des pas rapides s'approchèrent dans le vestibule. Et Serral, le maître de l'heure, parut devant Rosine. Il était grand, svelte, sportif, avec un torse d'athlète et un visage de statue étrangement pur et froid. Sans politesse préalable, avec autant de compassion que d'honnêteté, il demanda de quel genre était l'accident, posa des questions pressées, concises, ingénieuses, et familièrement appela Rosine « petite madame ». Ce faisant, il avait enlevé sa veste, mis à nu ses bras musculeux et passé la blouse sans manches qu'une autre infirmière lui présentait presque liturgiquement. Comme il sortait, une horloge sonna 5 heures. La nuit était encore absolue. Un valet de chambre déposa sur un guéridon une demi-bouteille de pommery. Rosine, restée seule, but une coupe de champagne selon que Serval, paraît-il, lui prescrivait. Elle s'assit dans un baquet de maroquin blanc, d'une hospitalité presque câline. Et le silence qui l'entoura lui parut formidable. Qu'allait-on lui apprendre tout à l'heure? Quelque part dans les profondeurs de ce temple neigeux, un des prêtres de l'esprit, courbé sur des blessures béantes, comme les devins de l'Antiquité, il lisait comme eux l'avenir. Tout à l'heure, cette porte blanche s'ouvrirait sur l'annonciateur des temps futurs, héros de vie ou de mort. Ah, cette porte, elle ne pouvait en détacher son regard. Le ventail éblouissant faisait pour elle comme un espace qui s'enfonçait indéfiniment. Et soudain, au seuil même de la porte, s'enlevant avec précaution sur le fond clair, une forme sombre se dressa, les bras écartés, dans une attitude inflexible et sévère. Le fantôme de la catastrophe hantait la solitude, il était là. Ce n'était pas une illusion, un mirage, mais une ombre réelle, ourlée d'un trait de flamme. Un être, enfin, jaillit matériellement du mystère. Il ne lui manquait que le mouvement et la parole. Mais quel mouvement eût été plus significatif que ce geste immobile? Et quelle parole eût exprimé plus clairement cette volonté? On ne passe pas. Rosine se leva rapidement. L'angoisse lui plaquait des glaçons à la paume des mains. Mais la porte s'ouvrit alors. À la place du fantôme noir, le surhomme blanc s'avançait. Il attribua le trouble de la mort là qu'à l'énervement bien compréhensible de l'attente et s'efforça de lui redonner confiance. « Petite madame, lui dit-il, tout n'est pas perdu. Il s'en fout de beaucoup. Mais nous avons des fractures multiples, notamment à la jambe droite, au bras, à la tête, je vous fais grâce des termes techniques. Nous subirons dans quelques minutes une première opération et demain matin une autre, de laquelle tout dépendra. Y a-t-il des lésions internes ? Bredouilla Rosine. Non, et la fracture du crâne est la seule chose qui m'inquiète. Je dois dire cependant que j'ai bon espoir, et que je considère le blessé comme sauvé si nous n'avons pas d'hémorragie cérébrale avant 24 heures. Le héros n'apportait ni la vie ni la mort, mais il apportait l'espérance. Et cela suffisait pour que Rosine le bénît, ce pionnier du savoir, l'homme en avance, l'homme de demain vivant aujourd'hui. Il ajouta, « Désirez-vous qu'on vous prépare une chambre ici ?» Elle accepta presque joyeusement. Elle se sentait légère, comme si vraiment la densité de sa chair eût diminué. Pour la première fois, elle songea à se regarder. Sa robe et ses fourrures étaient en haillons. Ses souliers écorchés lui rappelaient ses piétinements au milieu des débris. Une glace lui montra sa beauté lasse, blême, souillée de cambouis, de poussière et de sang. Stephen était déjà transporté dans une salle d'opération. Elle ne pourrait le voir que l'après-midi. Rosine prit donc le parti d'aller tranquilliser ses gens, faire sa toilette et changer de costume, puis de revenir à la clinique avec tout ce qu'il fallait pour y séjourner quelque temps. Le jour naissait. Pendant le trajet de la rue Galilée à la rue Guynemer, l'idée du fantôme obséda la curiosité de Madame Orlac. Maintenant qu'on y voyait clair, maintenant que l'espérance chantait en elle, et que la réaction détendait ses nerfs, ce fantôme perdait une bonne part de sa consistance. Elle se reprochait de n'avoir pas regardé derrière elle lors de ces deux apparitions. Cette tache humaine, cette larve ténébreuse, n'était peut-être que l'ombre portée de quelqu'un. Est-ce qu'elle avait su ce qu'elle faisait cette nuit? Est-ce qu'elle avait gardé la maîtrise de ses sens? Mais les traits du cadavre s'étaient gravés dans sa mémoire. Le Méphisto de Montgeron vivrait en elle 100 ans, poursuivrait sa rêverie comme certains personnages de romans, de théâtre, de cinéma. Et telle était l'humeur de Rosine que, moitié sérieuse et moitié plaisante, elle baptisa le fantôme d'un nom mélodramatique et le nomma Spectrophélès. Ô puissance de la jeunesse, de l'espérance, de l'aurore et du champagne! Elle se surprit à sourire en arrivant rue Guynemer. Elle y fut reçue par ses trois domestiques, Alexandre, Esther, sa femme, et Cécile, la pesante cuisinière. Ils avaient veillé toute la nuit. Puisant dans leur dévouement un surcroît de réconfort, Rosine leur fit de la situation un tableau excessivement optimiste et, refusant tout service, les envoya goûter un sommeil réparateur, ce qu'ils firent avec empressement. Rosine traversa la salle à manger. Apprêté pour le retour de Stéphane, le souper restait dressé. Les fleurs, les deux couverts, faisaient un effet démoralisant. Et le logis désert, au petit jour fade, prenait une apparence inattendue qui n'avait rien de folâtre. Tout y parlait de Stéphane absent. Des Stéphane négatifs étaient assis sur tous les sièges, accoudés à toutes les cheminées et debout partout. Le home vide était peuplé de non-Stéphane. Il offrait, ce home, le luxueux dénuement de nos intérieurs les plus modernes. Il faut avouer que cela concourait déplorablement à ce qu'une âme solitaire s'y trouva plus abandonnée. Mais Rosine n'entendait pas rechuter dans le pessimisme. Pour ne pas tant penser, elle activa ses préparatifs. Et quand son bain fut tiède à souhait, elle tourna le robinet d'eau chaude avec décision, comme s'il eût été la source même de la mélancolie. Nous la retrouvons une heure plus tard à son petit bureau directoire. Elle vient de glisser dans une enveloppe 5 billets de 100 francs et une carte de visite avec l'expression de toute sa gratitude, et elle écrit sur l'enveloppe le nom du médecin-major. Mais le timbre de la porte retentit par 2 fois. Elle ne songeait plus que les domestiques étaient montés. Il lui faut ouvrir elle-même. 8h15, sonnait le courrier. Elle ouvre. Un gentleman la salue avec aisance, gracieusement surpris d'apercevoir au lieu d'un valet cette si jolie femme, et sur un ton du dernier galant. « Monsieur Stéphane Orlac, madame. » Il prononce « madame » dans un sourire mondain. « Il n'est pas ici, monsieur. »« Oh, alors pardonnez-moi, madame. Monsieur Stéphane Orlac m'avait demandé de venir ce matin de bonne heure. Il devait, m'a-t-il dit, rentrer dans la nuit. Oh, toutes mes excuses, madame, je repasserai. » « Mais à qui ai-je l'honneur? Je suis l'agent de la compagnie Lorient. »« C'est que cela ne me dit pas grand-chose. »« Je viens pour l'assurance. »« L'assurance. »« Oui, l'assurance des mains de M. Stéphane Orlac. »« Les mains ?» Rosine est pâle comme la pierre. Autour d'elle, tout semble osciller, pencher, s'incliner, et le parquet de l'antichambre bascule sous ses pieds, tel un pont de navire par gros temps. les mains d'Orlac.